Salutations chers auditeurs, auditrices de Radio G, bienvenue dans l'émission Les Voix de l'Écho. Je suis Yves Maguin et pendant 50 minutes, nous allons aborder les thèmes de l'entrepreneuriat, de l'écologie, puis du développement économique local et éco-responsable. Cette émission est ponctuée de plusieurs temps forts avec un invité, une ou plusieurs chroniques en fonction des semaines, ainsi qu'une pause musicale choisie par l'invité. Alors, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. Et oui, bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio G. Bienvenue dans l'émission Les Voix de l'Écho. Nous sommes le 24e jour de l'année et nous fêtons aujourd'hui, entre autres, les François et les Françoises. Bonne fête à vous. Hier, 23 janvier, c'était l'anniversaire du manager de l'Anjou Business Club, Thibaut Beuchet. C'est grâce à lui que je fais de la radio, alors je souhaitais lui rendre hommage lors de l'émission du jour et le remercier de m'avoir fait confiance pour son émission Mordu d'entreprendre sur RCF Anjou en septembre 2020. Bon anniversaire, Thibaut. Avec mon invité du jour, nous allons parler bébé et parentalité aujourd'hui et pour m'accompagner en studio, Morgane Nectou. Bonjour Morgane, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Bonjour Yves, bonjour chers auditeurs. Alors aujourd'hui, on va parler du corps créateur du mouvement.
Encore quelque chose de très créatif, j'en suis sûr. On retrouve votre chronique Morgane dans une quinzaine de minutes et également en studio Alexis Desjeux. Bonjour Alexis, de quoi allez-vous nous parler ?
Bonjour Yves, bonjour chers auditeurs. On va continuer sur expliciter les vertus de l'échec, trop peu connues dans notre France bien-aimée.
Effectivement, un bon gros sujet. On retrouve votre chronique en deuxième partie d'émission.
Les Voix de l'Écho, une émission présentée par Yves Maguin.
On les désire, on les aime, ils nous agacent, voire ils nous exaspèrent. Et pourtant, c'est tellement du pur bonheur lorsque l'on partage un sourire, un bisou, un câlin ou un fou rire. Je veux bien sûr parler des bébés et des enfants. Malgré les difficultés du quotidien, quoi qu'il arrive, ils nous rendent happy. Chers auditeurs et auditrices, qui êtes parents, vous savez ô combien cela peut être difficile d'accueillir un nouveau-né dans une vie et d'élever un enfant. Aujourd'hui, nous allons parler justement d'ateliers et de détente autour de bébés, mais également de parentalité. Je reçois dans le studio Gwendoline Chailloux de l'entreprise Apio. Bienvenue Gwendoline dans le studio de Radio G.
Bonjour.
Alors ma première question est très simple. Gwendoline Chailloux, est-ce que le nom de votre entreprise est en lien avec la chanson Happy de Pharrell Williams dont nous venons d'entendre un extrait ?
Alors oui et non. À la base, on cherchait quelque chose autour de l'accompagnement, du soutien, et puis on n'a pas trouvé ce qui nous plaisait. Ce qui fait qu'on a eu envie de chercher des sonorités un peu différentes. Et un jour, je suis arrivée en disant « Ah, j'ai trouvé apio, ça veut dire soutenir en espagnol. » Et on était très contentes jusqu'à ce qu'une personne nous dise « Mais pas du tout, en fait, ça veut rien dire, c'est apoyo en espagnol. » Mais comme on arrivait à une crèche franco-anglaise, on s'est dit « Apio, ça fait happy, effectivement, et c'est ce qui nous a plu et on a gardé ce nom-là. »
Ah, c'est génial. Alors justement, apio, est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse et qu'est-ce qui a inspiré vraiment sa création ?
Oui. Alors, à la base, donc, nous étions deux. J'étais avec Charlotte Guéraud, que j'embrasse très fort. On a travaillé toutes les deux pendant très longtemps dans des structures d'accueil du jeune enfant. Moi, ça faisait 15 ans à l'époque que je faisais ce métier-là. Et puis, j'ai constaté au fur et à mesure que les parents avaient beaucoup, beaucoup de stress autour de l'arrivée de bébé et que c'était quelque chose qui était croissant avec beaucoup d'influence, beaucoup de messages qui allaient dans un sens et dans l'autre, et de contradiction entre ce que dit le médecin, ce que dit la sage-femme, ce que dit la belle-mère, et que du coup, il y avait une grosse charge mentale sur le dos des parents, et que l'arrivée d'un bébé, au lieu d'être du bonheur, c'était beaucoup de stress. Du coup, j'ai proposé à Charlotte de créer l'entreprise Apio. Et l'idée, c'était vraiment de venir écouter et accompagner la parentalité, mais pas sous forme de coaching ou d'accueil comme peut faire un psychologue, mais plus sur des temps du bien-être pour valoriser la fonction parentale et pour faire en sorte que on dise aux parents, essayez de vous écouter, essayez de vous détendre, et c'est vous qui avez la réponse. En fait, c'est à vous qu'il faut faire confiance.
D'accord. Alors justement, quels sont les différents services que vous proposez chez Apio Gwendoline?
Alors, il y a deux sortes de services. Il y a soit des propositions de bien-être vraiment autour de l'adulte. Ça peut être massage avant la naissance ou massage après la naissance. Je fais aussi du massage du visage type Kobido, massage japonais, et puis de la réflexologie plantaire. Et une fois que bébé est arrivé, je propose des initiations. Donc, à chaque fois, mon idée, c'est que le parent apprenne à faire quelque chose qui va le valoriser en tant que parent, et que ce n'est pas moi qui fais, mais c'est le parent qui fait. Donc, je propose des bains enveloppés. Et puis, je propose des initiations au massage bébé, au portage en écharpe, à la langue des signes et à la réflexologie plantaire. Et à côté de ça, je travaille aussi avec les collectivités, les entreprises, auprès des professionnels ou dans des ateliers parents-enfants. Donc là, pour le coup, c'est plus ma casquette d'éducatrice de jeunes enfants qui prend le relais. Et puis, j'interviens dans les structures, dans les centres sociaux, dans les ateliers parents-enfants en collectif.
Pas mal de choses, effectivement. Quelle est votre zone d'intervention, du coup, d'Apio?
Alors, c'est autour d'Angers, sur 25 km autour d'Angers, à peu près.
D'accord. OK. Donc, chers auditeurs et auditrices, inquiétez, à 25 km autour d'Angers, n'hésitez pas à prendre contact avec Apio si ça vous parle, effectivement. Donc, vous en parliez juste avant, vous avez commencé l'aventure Apio avec une autre personne. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de difficile. L'association avec des personnes aussi. Qu'est-ce qui a fait que cette aventure se soit terminée, en fait?
Alors, on a commencé ensemble parce qu'on était des collègues qui s'entendaient très bien. On n'était jamais en conflit. Et vraiment, on a une relation encore aujourd'hui qui est très forte. Et puis, l'entrepreneuriat, effectivement, c'est quelque chose qui est long à se mettre en place. Et on a eu des aides pour pouvoir être à la création d'entreprise, mais ces aides durent 2 ans.
Ah oui.
Et à un moment donné, il fallait pouvoir manger et puis vivre aussi et ramener un peu des sous à la maison. Donc du coup, moi, j'ai réussi à trouver un petit emploi à côté qui me permet en fait de continuer à Pio, mais Charlotte, ça n'a pas pu être son cas, donc regret, elle a quitté.
Ok. Donc aujourd'hui, vous avez votre activité Apio et à côté, vous avez donc une autre activité salariée.
Oui.
D'accord. Dans le même domaine, j'imagine?
Oui, je travaille dans le relais petite enfance de Douai-la-Fontaine.
D'accord.
Donc je suis toujours autour des petits, des enfants.
Oui.
Mais...
D'accord. Alors justement, je voudrais parler plus spécifiquement des ateliers pour parents et bébés. Gwendoline Chaillou, est-ce que vous avez des thèmes qui sont abordés spécifiquement lors de ces ateliers?
Alors, en dehors de ce que je peux proposer, des massages, des choses comme ça, je propose aussi parfois des cafés parents dans les entreprises ou dans les crèches. Ou alors là, c'est large, c'est autour de l'enfant. Donc, ça peut être les troubles alimentaires, les troubles du sommeil. L'idée, c'est que les parents apportent un peu leur expérience et qu'entre eux, ils trouvent des solutions entre eux. Moi, je ne suis pas dans l'idée d'apporter des solutions, je suis vraiment dans l'idée que ça vienne d'eux et qu'ils voient qu'ils ne sont pas tout seuls dans leurs problématiques.
D'accord, ça veut dire que les parents viennent, ils ne se connaissent pas forcément.
Voilà.
Et donc, vous faites une mise en relation, si je puis dire. Voilà, parce que c'est vrai que ça peut être un peu particulier aussi d'échanger peut-être avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Ça peut...
J'ai un rôle d'animatrice,
oui,
alors je vais faire en sorte que la libre circulation de chaque parole, de chaque personne, et que ce soit un endroit où ce qui se dit reste dans l'intimité.
Dans l'intimité, oui, d'accord. Et alors, est-ce que c'est déjà arrivé que des parents viennent vous voir sur des thématiques spécifiques que vous n'aviez pas encore prévues, et donc ça vous permet de créer d'autres types d'ateliers?
Pas particulièrement. Alors, il y a une chose dont je n'ai pas parlé que je fais aussi, c'est que j'accueille les futurs papas, mais là vraiment sur un temps d'échange d'une heure, où des fois ils viennent avec des listes parce qu'ils ont plein de peurs, mais ils n'ont pas beaucoup d'endroits pour les déposer. Les mamans, elles en ont un petit peu plus, ouais, avec les sages-femmes, avec le corps médical. Les papas, ils en ont très peu. Mmh. Et du coup, ça m'arrive des papas qui veulent juste apprendre à changer une couche, qui veulent apprendre à donner un bain, qui ont peur du pleur, du bruit, de la sécurité. Et du coup, on essaye de dédiaboliser tout ça.
Oui, c'est vrai que c'est important. On parle beaucoup des mamans. On parle rarement des papas, même si quand même il y a de plus en plus de papas qui s'investissent beaucoup auprès des enfants. Comment vous arrivez à vous différencier, parce que vous avez forcément de la concurrence, ou des partenaires, ou des confrères en tout cas, et des consoeurs. Comment vous arrivez à vous différencier chez Apio par rapport aux autres qui font la même chose que vous, Gwendoline Chailloux?
Alors, déjà, je n'aime pas l'idée de concurrence parce qu'on a tous le même but, c'est de faire en sorte que les parents se sentent bien. Donc, je ne fonctionne pas sur l'idée de la concurrence, et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde sur Angers. Après, moi, je pense que mon expérience assez longue autour du jeune enfant va faire que je peux être dans un regard préventif et dire j'observe que peut-être là il faudrait aller voir un ostéopathe, ou peut-être vous devriez parler de ça à votre pédiatre. Donc voilà, et puis j'ai plein de sujets que je peux aborder avec les parents que j'ai déjà rencontrés dans mon expérience. Donc c'est peut-être ça qui fait la différence, c'est le fait que bon, ça fait quelques années maintenant que je suis autour des tout-petits.
D'accord. Alors, avant de laisser la parole à Morgane pour sa chronique, nous allons jouer. Alors Gwendoline, j'ai pris pour habitude de faire dans l'émission des mini-jeux de questions-réponses. On commence avec la carte d'identité de votre activité. Est-ce que vous êtes prête?
Oui.
Allez, c'est parti. Donc, quel est le nom de votre entreprise?
Apio.
Son année de création?
Fin 2021.
Combien êtes-vous?
Bien, une maintenant.
Où êtes-vous situé?
Au ralliement à Angers.
Quelle est l'adresse de votre site web?
Apio-49.
Ok. .fr. Apio, vous l'écrivez comment d'ailleurs?
A-P-Y-O.
Ok, important de le préciser aussi. Quel est votre chiffre d'affaires annuel, si vous le connaissez?
Non, je ne le connais pas parce que j'ai le résultat de la première année, donc ce n'est pas forcément
représentatif. D'accord.
Je serai en février.
Ça marche, pas de souci. Merci beaucoup, Gwendoline, pour vos réponses.
Les Voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors, saviez-vous que le corps est créateur de mouvement? C'est le moment d'écouter la chronique de notre chroniqueuse artiste Morgane Nictou.
Soyons les artistes de notre vie. Une chronique de Morgane Nectou.
Tout être humain porte en lui un danseur, dit le chorégraphe Rudolf von Laban. Eh oui, chers auditeurs, ne sommes-nous pas tous nés du mouvement? Le mouvement crée de l'action, il est symbole de vie, de cheminement. Et je ne vous parle pas ici juste du fameux bouger.fr, mais bien du corps, créateur de mouvement. Observons comme notre corps bouge dans chaque situation. Même si nous tentons de le maîtriser, le corps se rebelle. Il crée alors des mouvements parasites, des tics quand nous nous exprimons. Une jambe qui tremble, un balancier, une main dans les cheveux ou une obsession soudaine pour le capuchon d'un stylo. Notre corps nous semble alors incontrôlable. Serions-nous tous des hyperactifs ? Une mélodie passe et notre corps se dandine, notre tête remue et notre pied marque la pulsation, alors que nous pensions tout maîtriser de peur d'être ridicule. Pourtant, n'avons-nous pas tous déjà souri devant un enfant qui gigote au son d'une musique, sans peur du jugement, juste par synchronicité avec elle? Car comme le dit Paolo Coelho, quand tu danses, tu peux t'offrir le luxe d'être toi. Mais en vieillissant, notre corps souvent s'immobilise, se bride parfois, et le mouvement créateur devient alors réservé à des moments précis, enfermés dans des boîtes.
Alors on danse.
On danse pour oublier, alors que notre corps est la première des mémoires. Le saviez-vous? Je pense ici à cette magnifique vidéo de la danseuse étoile Marta Gonzalez, atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui, à l'écoute de la musique du Lac des Cygnes, se souvient soudain de la chorégraphie qu'elle avait interprétée 50 ans plus tôt, à New York. Elle est alors capable de reproduire la chorégraphie geste après geste. Notre corps est mémoire. Il enregistre les ressentis, les émotions, les traumatismes, bien avant notre mémoire intellectuelle qui n'apparaît que vers l'âge de 3 ans. Il conserve la mémoire des gestes, de l'action, de la répétition. D'où, vous savez, la fameuse expression « c'est comme le vélo », cela ne s'oublie pas. Alors aujourd'hui, chers auditeurs, je vous partage une astuce que je délivre régulièrement aux personnes qui doivent prendre la parole en public. Ne cherchez pas à vous figer. Travaillez vos présentations en mouvement, vous retiendrez encore mieux votre contenu. Amusez-vous à chorégraphier vos exposés, vos discours, pour ancrer vos gestes et vos propos. Et puis rien ne vaut le mouvement libéré pour faire descendre le taux de stress. Chers auditeurs, prenez le temps d'écouter votre corps. Il sera toujours de bons conseils.
Est-ce que vous avez une question, Morgane, à poser à notre invité ?
Oui, Gwendoline, je voulais vous poser la question. Quel mouvement répétez-vous régulièrement, peut-être de manière, sans vous en rendre compte, de manière spontanée, intuitive?
Quand j'ai les jambes croisées, quand je suis assise, je tape du pied.
Merci, okay. Merci.
Très bien. Merci, Morgane, pour cette chronique.
Les voix de l'écho. Une émission présentée par Yves Maguin.
Alors, comment Apio s'adapte aux besoins en fait, des bébés? C'est-à-dire que j'ai le sentiment de me dire, est-ce que tous les bébés ont les mêmes besoins ou pas? Comment vous faites, Gwendoline Chaillot?
Non, c'est vraiment à la carte. Moi, d'abord, je prends un temps assez large avec les parents pour chaque prestation ou une prestation qui aura besoin d'une heure, je vais facilement la mettre sur une heure et demie parce qu'il y a besoin de changer, de téter, donner un biberon, des choses comme ça. Et puis, je fais toujours un petit quart d'heure d'entretien pour essayer de connaître un petit peu la famille, de voir dans quoi s'ancre cette arrivée de bébé, comment s'est passée la naissance, la grossesse, et puis aussi d'expliquer un petit peu mon approche. Et voilà. Et après, le bébé, s'il n'est pas disponible pour recevoir un massage, eh bien, on utilise des poupées de massage. Et dans quel cas, il peut lui être soit au milieu avec nous, soit en train de dormir. Ou, voilà. Mais c'est vraiment le bébé qui nous dicte en fait ses envies là où
oui.
Il en est.
D'accord, là où il veut. C'est-à-dire que les massages peuvent être faits sur la poupée, c'est ça?
Oui.
Pour s'entraîner finalement.
C'est ça.
Pour ensuite passer sur c'est le bébé. Ça. Ok. Et il faut combien de séances à peu près pour que les parents maîtrisent les types de massages?
Alors, c'est en 2 séances d'une heure. Et puis après, j'envoie les visuels pour qu'ils puissent s'appuyer dessus une fois qu'ils sont tout seuls.
Oui, bah oui.
Voilà, avec la proposition, s'il y a quelque chose dont ils ne se souviennent plus, de pouvoir me rappeler.
D'accord. Ok, oui, il y a un petit suivi quand même. Voilà. Vous ne les lâchez pas dans la nature, bien évidemment. Justement, en termes de tarifs pour les auditeurs et auditrices, combien ça coûte une séance que vous proposez?
Alors, je vais être, selon si c'est en une heure ou ou trois séances ou une séance, en fait, ça peut varier. Ça va être entre 60 et 90 euros.
D'accord, ok. C'est important de le préciser aussi également. Donc, vous faites des expériences personnalisées pour les parents, avec les bébés. Est-ce que vous avez des... En tout cas, vous pouvez nous partager des témoignages que vous avez pu avoir des parents suite au massage qu'ils ont pu faire au niveau des bébés.
Alors, je pense notamment au bain. Des bébés qui pleurent lorsqu'ils prennent des bains et les parents viennent donc dans les idéalement les 4 ou 5 premières semaines faire un bain enveloppé. Mmh. Et puis je leur explique la technique pour langer un bébé et puis après le bain, et des fois ils me disent j'ai des messages après qui me disent depuis qu'on fait ça mon bébé ne pleure plus après le bain, donc c'est chouette.
Ah, ça c'est chouette. Ouais, ça c'est vraiment hyper hyper intéressant. Donc c'est, et il y a... J'imagine que ça dépend les bébés, mais il y a un nombre de massages spécifiques. Est-ce que vous avez remarqué, je ne sais pas si vous faites des statistiques, mais combien de massages il faut faire pour que entre guillemets, le mal s'apaise ?
Ah oui, alors, ce n'est pas tout à fait ça. Le massage, c'est du bien-être. Mmh. Donc, ce n'est pas curatif. C'est du bien-être, c'est pour un échange avec son bébé, pour créer des hormones d'attachement, un petit cocon. Donc, il n'y a pas vraiment de nombre possible ou impossible. C'est juste qu'à des périodes de leur vie, les enfants n'ont pas envie d'être massés, parfois parce qu'ils sont en moteur, puis il y a d'autres fois, ils en ont envie. Mmh. Mais par contre, je montre aussi les massages du ventre ou les massages du visage qui peuvent venir aider à soulager des douleurs ou décongestionner. Mais ce n'est pas l'idée d'être dans la réparation de quelque chose.
Oui.
Donc ça s'apprivoise ou ça se met en place avec le parent selon le rituel qu'il met. Après, la réflexologie plantaire, là, elle va être plus sur quelque chose de curatif pour le
D'accord.
coup. Donc la réflexologie plantaire, il faut le faire plusieurs fois. Enfin, il y a un rituel pendant 15 jours où on pourra attendre vraiment des résultats.
Oui, vous appuyez sur des points spécifiques.
Voilà, qui vont résonner sur le corps puisqu'ils vont appuyer sur la fin des terminaisons nerveuses. Donc là, il y aura une idée de venir soit prévenir ou soit soigner quelque chose. Mmh, le d'accord. massage, ce n'est pas nécessairement l'idée, si ce n'est soulager des fois le ventre quand il y a des douleurs du ventre.
Et est-ce que justement, ces massages, on peut aussi les faire aux jeunes enfants une fois qu'on les a appris oui.
Moi, j'ai une fille de 13 ans, elle en veut toujours.
Ah oui. Voilà, c'est le côté un peu, j'ai envie de faire un câlin à maman aussi.
Celle de 5 aussi, j'ai du boulot à la maison.
D'accord. Ouais, non, c'est vrai que c'est important parce que, mine de rien, on a besoin de bien-être finalement à tout âge. Mm. Voilà, on parle beaucoup des adultes, mais les bébés, on a aussi besoin au final.
Oui.
Alors, comme bébé, hein, nous avons besoin aussi des fois de faire des petites siestes et pourquoi pas la faire en musique. Avec donc une petite pause musicale, nous allons écouter l'artiste angevine Les Épines de Mimi Rose et la chanson Dans les rues d'Angers. On reparle de ce choix musical avec mon invité Gwendoline Chaillou juste après. Bonne écoute sur Radio G.
Les ruelles s'allument, les terrasses sont bien chauffées. Les artistes s'embrument, c'est la pose du petit godet. J'ai quitté la maison d'Adam, le ventre plein d'ardoises. Le tricouillard chemin faisant me laisse en extase dans les rues d'Angers, d'Angers. J'aime planer, prendre du bon temps dans les rues d'Angers, d'Angers. Tant que je peux à tout bout de champ dans les rues d'Angers, d'Angers. J'aime planer, prendre du bon temps car la ville d'Angers, d'Angers, elle charme les passants. Le château d'Angers, ses remparts surplombent la doudre illuminée. Les maisons en pan de bois, les rues de pavés m'accompagnent tout droit vers le bon roi. René dans les rues d'Angers, d'Angers. J'aime planer, prendre du bon temps dans les rues d'Angers, d'Angers. Tant que je peux à tout bout de champ dans les rues d'Angers, d'Angers. J'aime planer, prendre du bon temps car la vie d'Angers, d'Angers, elle charme les passants.
Didou 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 didou.
Sur la mène miroite, le soleil couchant, que peint une main à droite, au même moment, la cale de la savate se fond dans le noir, les mariniers à la hâte rejoignent les bars dans les rues
d'Angers, d'Angers.
Les mariniers, les étudiants dans les rues
d'Angers, d'Angers.
Ça godaille à tout bout de champ dans les rues
d'Angers, d'Angers.
Les accroche-cœurs pour les passants dans les rues
d'Angers, d'Angers.
C'est la fête tout simplement. Je rentre à la roseraie, dormir dans les nuages, dans ma tour dorée, au 11e étage. Les quenions, j'ai la gaule trop enfarinée. Je dois me lever tôt, à mon plaisir on fait le marché dans les rues
d'Angers, d'Angers.
Les potichers, les maraîchers dans les rues
d'Angers, d'Angers.
C'est Marrakech, le marché dans les rues
d'Angers, d'Angers.
Les potichers, les maraîchers dans les rues
d'Angers, d'Angers.
C'est Marrakech à Angers.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Vous êtes toujours là.
Bouger,
revenu. Un petit problème de calage, c'est pas grave. Vous êtes toujours branché sur Radio G et toujours à l'écoute de l'émission Les Voix de l'écho. Je suis en compagnie de mon invité Gwendoline Chaillou de l'entreprise Happy O et aussi en compagnie de mes chroniqueurs Morgane et Alexis. Nous venons d'écouter l'artiste Angevine, Les épines de Mimi Rose. Et la chanson « Dans les rues d'Angers ». Pourquoi avoir choisi ce titre musical, Gwendoline ?
Eh bien, parce que Mimi Rose, c'est ma grande sœur.
Ouais, super. Quel scoop, c'est chouette. Donc, c'est une artiste en Angevine qui tourne depuis un petit moment maintenant. Ça fait une bonne dizaine d'années, au minimum. Hein.
Oui, minimum.
Au minimum. Oui, hein. Ouais, hein. Donc, c'est chouette. Je voudrais qu'on aborde maintenant les autres prestations. On a beaucoup parlé du massage de bébé. Vous faites aussi du massage donc, pour les femmes enceintes, de la réflexologie plantaire. Est-ce que vous pouvez réexpliquer, même si on a parlé un petit peu au début de la première partie d'émission, en quoi ça consiste ?
Alors, je propose des massages pour les femmes à partir du troisième mois de grossesse, quand le fœtus est bien accroché. Donc, c'est du massage détente qui va aider, par exemple, à détendre certaines zones douloureuses et puis qui va permettre aussi de poser un instant pour prendre du temps pour soi.
Mmh.
Et c'est un massage qui dure à peu près une heure. Toutes mes prestations peuvent être soit dans mon local au ralliement ou soit à domicile.
D'accord, oui, ça aussi, c'est important de le préciser que vous pouvez venir chez les personnes pour faire les.
Oui.
Alors, je ne vais pas dire les soins parce que je ne sais pas si on peut.
Voilà,
dire
pour les
soins.
Massages, ce sont
c'est
des soins.
C'est des soins quand même.
Des soins, des initiations.
D'accord.
Et puis ensuite.
La réflexologie.
Alors, la réflexologie plantaire, donc, c'est une pratique qui va aider à soulager des tensions. Ça peut être des douleurs organiques ou sur les os. J'ai des femmes et des hommes aussi qui ne sont pas autour de la naissance, qui viennent des fois juste parce qu'ils aiment bien. Donc là, l'idée, voilà, c'est d'aller détendre des parties du corps qui vont être un peu douloureuses.
D'accord.
Et puis,
vous faites aussi de l'aide à l'allaitement, je crois, j'ai vu.
Alors c'était Charlotte, mais moi, je n'ai pas repris ça. Par contre, je fais des massages du visage japonais de type Kobido,
mm-hmm.
Donc là, c'est pareil, ça s'adresse à tout le monde. Ça va être un massage qui allie douceur et tonicité, où je vais aller travailler par des percussions les zones du visage, et ça va donner tout de suite un côté bonne mine et détente. Mmh. Et puis, ça va atténuer les poches, ça va faire comme si on avait eu un lifting naturel, en fait, au niveau du visage. Et moi, je n'utilise pas de matériel, c'est tout est fait à la main.
D'accord, avec des huiles spécifiques peut-être.
Avec des huiles, des huiles végétales naturelles que j'ai utilisées. Et puis pour ça, je propose des cures en fait de 3 séances pour avoir vraiment cet effet détente et bien-être.
Ok. Et alors, quels conseils donnez-vous à vos clients quand ils envisagent d'expérimenter finalement le massage et qu'ils n'ont jamais fait
Moi, j'ai pas nécessairement de conseils à donner. D'accord. C'est juste lâcher prise. Et puis, je sais que, alors, autant les hommes, ils s'endorment facilement.
Je confirme.
Autant les femmes, elles vont avoir plus de charge mentale, des fois, qu'elles ont plus du mal à lâcher. Mais ça arrive aussi qu'il y ait des détentes qui soient assez sympathiques.
Oui, mais il n'y a pas forcément d'appréhension. Non. Les personnes qui viennent, généralement, ils savent ce qui va se passer.
Oui, oui. Et puis, je demande toujours, par exemple, pour les femmes enceintes, je demande toujours dans mon petit entretien préalable s'il y a des zones qu'elles ne veulent pas que je touche, comme le ventre ou comme les pieds, si tout est OK, et puis qu'elles me signalent au moment du massage s'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Si elles peuvent être sur le dos ou si elles préfèrent être sur le côté ou remonter un petit peu. Enfin, voilà, je fais vraiment attention à ce que ce soit un bon moment.
Et alors, un peu comme les massages pour bébé, est-ce que c'est ce que vous faites après dans une routine quotidienne, si je puis dire, les femmes enceintes peuvent continuer à faire du massage ou ne recommandez pas de le faire soi-même?
Oh bah, elles peuvent faire des automassages. Après, ouais, c'est pas forcément simple, mais... Mais oui, il n'y a pas de contre-indication.
Oui, d'accord. Est-ce que vous avez... alors, on a entendu tout à l'heure que vous aviez donc encore une partie salariée. Est-ce que vous avez, et que vous êtes donc maintenant toute seule, est-ce que vous envisagez de vous réassocier avec quelqu'un ou travailler avec d'autres partenaires, justement?
Alors, j'ai un grand réseau avec qui je travaille de personnes qui sont autour... souvent autour de la naissance, de la grossesse, du bien-être. Ça peut être des ostéopathes. Enfin, j'ai un réseau assez large comme ça. Mais je ne cherche pas forcément à me réassocier.
D'accord. OK. Et justement, en termes de réseau, est-ce que vous faites partie de réseaux spécifiques en local?
Alors, je fais partie des mordus d'entreprendre.
D'accord.
Et puis après, c'est plutôt des personnes que je rencontre qui viennent travailler parfois dans mon local lorsque je ne l'utilise pas ou avec qui je fais des échanges ou quand un parent, je sens qu'il a un besoin, je peux l'envoyer vers cette personne et puis inversement, beaucoup de sages-femmes, d'ostéopathes par exemple, me renvoient des gens. Donc c'est plus des échanges.
Oui, c'est vraiment sur du bouche à oreille finalement que vous fonctionnez.
Oui.
D'accord. Avant de laisser la parole à Alexis Desjeux pour sa chronique, comme tout à l'heure, nous allons faire un petit jeu.
Here we go !
Alors, pour ce deuxième jeu, Gwendoline, nous allons faire votre portrait chinois. Est-ce que vous êtes prête ?
Oui.
C'est des questions simples, vous inquiétez pas. Et si vous ne connaissez pas la réponse, hein, vous pouvez dire « je passe, il n'y a pas de souci ». Alors, quel est votre plat cuisiné préféré?
J'adore les tartes aux légumes.
Ok. Votre série préférée?
Oh là, j'en ai plusieurs.
Ah, c'est pas une question simple.
Je vais dire que j'aimais bien « Umbrella Academy ».
D'accord, je ne connais pas du tout. Quelle est votre couleur préférée?
Ça dépend pourquoi.
D'accord.
En fait.
C'est-à-dire que...
J'aime bien que le soleil soit jaune. Et que...
Ouais.
Mais s'il était vert, ce serait bizarre.
Oui, c'est vrai aussi.
Donc, j'aime bien toutes les couleurs.
Quelle est votre ville préférée?
Alors, je n'ai pas de ville préférée. Mais Angers est très chouette.
Ah oui, quand même. Ouais. Angers, c'est pas... quel est votre dernier lieu de vacances ?
Je suis allée... j'ai une maison qui est au bord de Saint-Gilles-Croix-de-Vie où je passe de très bons moments familiales. Donc je vais dire ça.
Ok. Et pourquoi vous levez-vous le matin ?
Parce que j'entends mes filles qui sont déjà debout.
C'est une bonne raison, effectivement. Merci Gwendoline pour vos réponses.
Les Voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
En Occident et spécifiquement en France, l'échec est stigmatisé. Et pourtant, les vertus de l'échec pour conforter sa confiance en soi et le chemin vers plus d'assertivité est beaucoup plus gratifiant et important que vous ne pensez. C'est le moment d'écouter la chronique d'Alexis Desjeux.
Mieux vivre ensemble avec assertivité. Une chronique d'Alexis Desjeux.
Bonjour chers auditeurs, auditrices, quel que soit votre genre, obédience et autres croyances toutes personnelles. Aujourd'hui, j'aimerais continuer à vanter les vertus de l'échec comme un chemin pour gagner de la confiance en vous et donc faire quelques pas vers un peu plus d'assertivité dans votre quotidien. Petite question à Yves ce matin qui fait souvent des jeux à nos invités. Quel est le point commun entre Barbara, la chanteuse, Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique et Roger Federer, champion de tennis ?
Je dirais qu'ils sont tous connus, en tout cas, ils ont tous connu un succès éclatant.
Exactement, mais pas seulement. Comme nous l'explique Charles Pépin, philosophe contemporain dans son ouvrage sur les vertus de l'échec, ils sont aussi passés par des phases d'échec. Sans cette adversité, sans toutes ces occasions de réfléchir ou de rebondir que leurs ratés leur ont offertes, ils n'auraient pas accompli ce que l'on sait d'eux. Voyons donc ensemble quelle est la place de l'échec dans notre société. À l'école, par exemple, il y a bien des instituteurs, des enseignants, des formateurs convaincus que c'est en se trompant que l'on apprend. Il me semble que l'éducation nationale, elle, l'ignore profondément. Les élèves qui ratent leurs exercices, par exemple, sont souvent montrés du doigt. Le redoublant, à qui le prof explique « Bah, tu l'as déjà vu l'année dernière, tu devrais le savoir, nom de Zeus !» Ont-ils intégré les vertus de l'échec ? Probablement pas. D'ailleurs, selon une étude PISA, donc cet institut européen qui vient étudier les performances de nos élèves dans les pays membres de l'OCDE, la peur de se tromper est chez les jeunes excessivement élevée. Incroyable. Parce que quand on y réfléchit bien, si on prend le secteur de la recherche par exemple, l'échec est une vertu. Thomas Edison lui-même n'échoue pas, il le dit. Il dit « Je n'échoue pas, je réussis à essayer ». Thomas Edison sait que la seule manière de s'approcher de la vérité est d'échouer d'abord à la comprendre. C'est l'échec qui construit la réussite. Si on prend le monde de l'entreprise, où l'erreur est aussi fortement stigmatisée, voire montrée du doigt négativement, un dirigeant qui dépose le bilan aura bien du mal à lancer et à financer un nouveau projet. Les partenaires financiers n'auront plus confiance. Si on prend Steve Jobs, fondateur d'Apple, qui est passé par un lourd échec avant de réussir. En 85, après des choix désastreux pour l'entreprise et enfermé dans des convictions toutes personnelles, Steve Jobs n'écoute personne. Sa direction décide de le licencier de sa propre entreprise. Quelques années plus tard, il dit lui-même « Cela m'a libéré et permis d'entrer dans une période de créativité. Ce fut un médicament affreux, mais je pense nécessaire pour le patient. » Il réintégrera sa firme quelques années plus tard avec le slogan « Think different » et il ne commettra plus l'erreur de penser que l'on peut avoir raison seul. Il comprendra par son échec qu'avoir raison trop tôt en termes de marché, c'est avoir tort. Il a connu le succès que l'on sait grâce à l'échec.
Oui, mais alors justement, Alexis, excuse-moi, je vous coupe dans votre chronique, mais comment on peut surmonter l'échec, justement ?
Merci Yves pour cette interrogation. Oui, il y a bien quelques éléments de réponse et je vous donnerai une lecture stoïcienne de l'échec. Les stoïciens disent « Il est vain d'essayer de changer ce qui ne dépend pas de nous. Il vaut mieux user de sa force pour agir sur ce qui dépend de nous. » Je m'explique. Avec les propos de Marc Aurèle, qui était empereur romain en l'an 180. Marc Aurèle n'a de cesse de rappeler « Avant d'agir, commence par identifier ce qui ne dépend pas de toi. Cela, n'essaye pas de le changer. Concentre-toi sur le réel et ce que tu peux changer. » Un exemple. Tu viens d'être licencié, injustement par ton entreprise. La direction a fait son choix. N'essaye pas de la faire changer. Bats-toi plutôt sur tes droits. Concentre-toi sur ta reconversion. Négocie des indemnités de départ, de la formation. Dépense des énergies positives pour rebondir. La sagesse stoïcienne passe par cette distinction simple mais si fondamentale pour surmonter l'échec. Se concentrer sur le réel, sur ce que tu maîtrises. Elle évoque un autre élément, cette pensée stoïcienne. Au fait qu'il ne faut pas rajouter à l'échec le sentiment d'injustice. Et oui, le sentiment d'injustice n'apporte rien. Je sais, vous pouvez le ressentir, c'est injuste. Mais vous n'avez pas de prise sur lui. Pire, il vous enferme dans une énergie négative qui ne construit rien. Prenons l'exemple de Federer, qui vient de perdre un simple contre Gaël Monfils en Coupe Davis. La Suisse et la France sont à un partout. Il faut gagner 3 matchs pour gagner la compétition. Federer dit en interview « Oui, j'ai perdu contre Gaël Monfils, mais j'ai appris ce que je voulais savoir. » Derrière, Federer gagne les 2 matchs qui suivent parce qu'il a analysé les facteurs de sa défaite pour construire la victoire dans ses matchs. Il ne s'est pas appesanti sur un sentiment d'injustice. La balle était trop molle, la raquette trop pas ci ou pas ça. Non, il a construit sa victoire sur ce que l'échec lui a appris. Ainsi donc, pour surmonter l'échec, mon cher Yves, plusieurs éléments. L'échec, lorsqu'il est là, ne dépend plus de nous. Seul dépend de nous la manière de le vivre. Nous pouvons pleurer sur notre sort, injuste. Ça peut durer un temps d'ailleurs, on a le droit de le faire. Mais on peut aussi voir l'échec comme une chance de rencontrer un autre chemin. Faire les choses avec audace, la prise de risque fait partie intégrante de l'échec et de la réussite.
Mais alors comment et quelles vertus peuvent exister d'autres par rapport à ça, Alexis ?
Ah, c'est une question importante, Yves, effectivement. Première chose, l'échec nous laisse du temps pour autre chose. Et oui, pour trouver son chemin vers une autre voie. L'échec d'un dépôt de bilan ou d'un licenciement, eh bien, quelque part, vous laisse du temps pour faire un bilan de compétences, une réflexion sur vous-même, une réflexion sur vos envies. Bien sûr, vous pouvez aussi prendre ce temps de savoir ce qui vous motive au quotidien sans attendre l'échec. On le verra prochainement dans l'Ikigai, un chemin philosophique mené par les Japonais, un chemin de vie. Si Charles Darwin, par exemple, n'avait pas échoué successivement dans ses études de médecine ou de théologie, il n'aurait pas eu le temps d'embarquer pour ce voyage au long cours qui changea notre vision du monde, la sienne en premier. Ne prenez pas l'échec comme un cul-de-sac, mais comme un carrefour vers d'autres chemins. Autre élément, Yves, qui est vertu de l'échec, c'est qu'il nous rappelle les limites de notre pouvoir. Honnêtement, affirmer que quand on veut, on peut, est une vraie bêtise. En même temps qu'une insulte à l'égard de la complexité du réel. La vertu de l'échec impose au sujet d'arrêter de vouloir pour redevenir, capable d'entendre ses propres désirs. Analyser son échec, c'est prendre le temps de savoir ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous. Après tout, vous avez paumé ce job, c'était peut-être un job de merde qui ne vous correspondait pas. Alors, vous pouvez bien entendu vous faire vous accompagner, car parfois dans ces périodes de doute, quand l'échec nous frappe, un coach, un psy, une personne extérieure peut vous permettre de surmonter ce chemin qu'il n'est pas toujours facile de faire soi-même. Cependant, il me semble qu'il est grand temps que chacun ouvre les yeux sur les vertus de l'échec qui sont constitutives de la réussite de nombre de nos exemples contemporains et historiques. En France, il est trop souvent stigmatisé, alors qu'il est le facteur essentiel de la réussite de chacun. Il est même constitutif de cette réussite. Changeons donc notre regard sur l'échec. Et je terminerai par cette phrase de Nelson Mandela, que sûrement vous connaissez. Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. Alors, prenez soin de vous et de vos proches, faites les choses avec plaisir, audace et envie, si ça vous branche, et acceptez l'échec. Belle journée. Et pour notre Gwendoline ici présente, est-ce que vous auriez un exemple d'échec ou de chemin dans votre vie où vous vous êtes dit, eh bien, après celui-là, j'ai rebondi?
Oui, bah, disons que j'ai un tempérament qui fait que je vais toujours essayer de voir ce qui est positif dans une situation. Et c'est vrai que quand Charlotte m'a annoncé son départ, il a fallu un peu accuser le coup. Et puis après, moi, j'ai dû me poser la question de si je continuais ou non à Pillot. Et j'y croyais encore et j'y crois toujours. Et ça m'a boostée pour justement me dire maintenant, je suis toute seule, donc je dois me motiver à faire en sorte de trouver des nouvelles personnes, des nouveaux partenaires. Et puis, j'ai dû me former pour faire les choses que je ne faisais pas, que Charlotte proposait. Et puis, voilà. Et aujourd'hui, bah, j'ai toujours la motivation de cette création.
Tu as emprunté un autre chemin.
Voilà.
Super.
Merci.
Merci beaucoup, Alexis. Vous pourrez écouter l'intégralité de cette chronique, bien sûr, sur le replay de l'émission.
Les Voix de l'écho. Une émission présentée par Yves Maguin.
Gwendoline Chaillot, je voulais utiliser le temps qui nous reste pour parler un peu plus d'entrepreneuriat, mais aussi d'éco-responsabilité. Parce que dans les voies de l'écho, le côté éco, il n'y a pas que l'économie, il y a aussi l'écologie, par exemple. Et justement, qu'est-ce que vous mettez en place, vous, au quotidien de votre entreprise pour être éco-responsable ?
Alors, j'ai une grande sensibilité éco-responsable. Déjà, tout ce qui est tissu, tout ça, ça va être minimum de jetables, même les essuie-mains, les serviettes que j'utilise. C'est vraiment, je fais très attention à ça, qu'il n'y ait pas trop de déchets. Et puis, j'insiste vraiment auprès des parents pour leur expliquer les huiles qu'il faut utiliser, des huiles végétales sans parfum, sans huile essentielle, idéalement bio, pour vraiment que leur bébé soit et des produits vraiment qualitatifs pour eux, qui ne viennent pas entraver.
Oui, qu'il n'y ait pas d'intrants chimiques qui viennent effectivement dérégler un peu tous nos systèmes immunitaires ou nos hormones ou autre, effectivement. Quelle leçon, alors on a parlé un peu avec l'échec à l'instant, mais quelle leçon vous apprend l'entrepreneuriat dans votre quotidien ?
Alors, ça m'a appris qu'il fallait avoir plein de casquettes, parce que c'est vrai que quand on a un savoir-faire qu'on veut proposer en se disant « je vais ouvrir une structure », on ne pense pas à tout ce que ça représente au début. Et entre le marketing, la com, les réseaux, la comptabilité, c'est assez important tout ce qu'on doit faire. Et c'est vrai que quand on a eu l'idée de ça à la base, on ne pensait pas du tout à tout ce qui en allait en découdre.
Effectivement. Et oui, oui, oui. Voilà. Malheureusement, l'émission Les Voix de l'écho touche déjà à sa fin. Et oui, merci beaucoup Gwendoline Chaillot d'être venue nous parler d'Apio et puis donc des ateliers pour bébés et de parentalité. Merci beaucoup Alexis Desjeux et Morgane Nectou pour vos chroniques. Petit clin d'œil à Sophie Barré et Elodie de l'émission 30 minutes de bonheur qui utilise Happy, justement, de Pharrell Williams pour leur générique du début d'émission. Merci à toutes les personnes de m'avoir permis de préparer cette émission. Un petit coucou à Charlotte qui est dans le studio. Si vous souhaitez assister à l'émission, pas de souci, contactez-moi via les réseaux sociaux. Vous pouvez écouter le replay de l'émission sur le site de la radio, donc radio-g.fr. On se retrouve le mercredi 7 février de midi 10 à 13h. On parlera de compostage. Prenez soin de vous et merci d'avoir choisi d'écouter Radio G.
Radio G.